Donc je prends une suite difficile à apprendre après Alain Cohn. Moi j'ai l'habitude de dire que la physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun. Mais quand j'écoute Alain, à chaque fois, je me demande si c'est pas l'inverse. Il y a deux disciplines semblables, séparées par un langage différent. Je ne sais pas laquelle des deux propositions est la plus juste. Je me souviens d'un soir à Ajaccio. Nous étions ensemble au même colloque qui s'intitulait Sciences et Humanisme, et Alain venait de faire un exposé intitulé Peut-on entendre les formes de l'univers? Où il avait beaucoup parlé de non-commutativité, et on avait discuté du lien entre non-commutativité et anagramme, comme il l'a rappelé. Et je lui avais donné l'anagramme du boson scalaire de Higgs. Et là, j'ai vu il a changé d'état thermodynamique, tout d'un coup. Et quelques mois plus tard, il a publié un livre qu'il a cité, Théâtre quantique, et le sous-titre, c'est L'horloge des anges ici-bas, qui est l'anagramme. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait si au lieu de lui donner l'anagramme du boson scalaire de Higgs, je lui avais donné l'anagramme du boson scalaire, le boson scalaire tout seul. Ça donne bière sans alcool. Et je crois pas, bière sans alcool, et je crois pas que ça l'aurait inspiré autant. Voilà. Alors, comme il a expliqué, si j'ai bien compris, que on peut presque dire que le temps est une sorte d'illusion. Eh bien, l'anagramme de le temps est une illusion, c'est où se pillent les minutes. Donc, ça donne le temps est une illusion, où se pillent les minutes. Bon. Alors, trêve de plaisanterie, je rentre dans mon sujet. Qu'est-ce qui se passerait si le temps n'était pas le paramètre T? Et avant de traiter cette question rapidement, je voudrais quand même vous rappeler que ce colloque est un colloque qui porte en fait sur le langage et sur la critique que nous pouvons faire du langage à partir des savoirs contemporains, scientifiques ou autres. Si vous lisez le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, qui s'intitule Le temps, vous comprenez que Saint-Augustin, en fait, parle comme nous du temps. Et nous parlons comme lui. Or, entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Alain Cohn et quelques autres. Oui, mais moi je suis hors catégorie. Puisque justement, je vais passer mon exposé à citer des textes dans lesquels il y a le mot temps. Bon. Et donc, si nous parlons comme Saint-Augustin, c'est que notre langage n'a pas été affecté par les révolutions scientifiques dont je viens de parler. Et donc, est-ce qu'on a raison d'avoir confiance dans le langage, surtout quand on constate la polysémie dont on a parlé hier soir? Alors, Saint-Augustin, pour revenir à lui, est l'un des premiers, et ça a été ensuite reformulé par Paul Valéry, à comprendre que le mot temps ne donne lieu à aucune difficulté d'interprétation lorsqu'il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire qui contient ce mot. Mais qu'il devient très embarrassant dès qu'on le retire de la circulation pour l'examiner à part. Donc, comme si le sens du mot temps était donné par la phrase qui le contient. Mais dès qu'on le sort de la phrase, il devient un substantif. Et là, la pensée se met à l'interroger. C'est quoi cette chose? Et Wittgenstein faisait remarquer que puisque nous désignons le temps par un substantif, nous le pensons comme une substance. Et la question est, de quelle substance le temps est-il fait? Alors, je cite Wittgenstein, il dit ceci, qu'est-ce que le temps? De quoi parlons-nous quand nous parlons du temps? Qui est exactement une phrase qu'a prononcée Alain tout à l'heure. Et voilà ce qu'il répond. L'erreur réside déjà dans la question, comme si la question était de quel matériau est fait le temps, comme on dit par exemple de quoi est fait ce tissu. Excusez-moi, madame. Ouais. Et donc, voilà, le langage, dit Wittgenstein, nous trompe d'emblée, et penser, c'est être en lutte avec la langue. Et donc, le but de ce colloque, c'est d'être en lutte avec ou contre la langue. Mais miracle, dit Paul Valéry, Dès qu'on insère le mot temps dans une phrase sans s'apesantir sur lui, tous ces questionnements semblent s'évanouir et tout redevient limpide. En somme, il semblerait que c'est seulement grâce à la grande vitesse de notre passage sur les mots que nous parvenons à comprendre ce que nous disons lorsque nous parlons du temps. C'est la vitesse du langage qui permet la compréhension. Et dès qu'on parle lentement, en isolant les mots, le sens se perd.
Ce qu'on appelle la langue de
bois. Ou le langage courant. Un but partout. Saint Augustin, vous le savez tous, est le premier à avoir, sinon éprouvé, du moins exprimé, ce sentiment d'hébétude que nous éprouvons en constatant que malgré notre conscience du temps, celui-ci demeure abstrait et insaisissable. Il est aussi celui qui, par un travail critique inaugural, est parvenu à élaborer les bonnes questions dont certaines continuent de se poser, alors même que les Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein, etc. ont profondément remanié la façon dont nous comprenons les liens du temps à l'espace, au mouvement, au changement, aux phénomènes, aux événements, même si je sais bien que cette remarque suppose implicitement, ça sera la question, que le temps des physiciens serait bien le seul vrai temps. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans la suite de mon propos, c'est que Orwell, dont on parle beaucoup en ce moment, avait raison lorsqu'il dit ceci: les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échecs avec des individus réels. Fin de citation. Ainsi, nous méditons, nous parlons du temps sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-ce que le temps est une substance? Est-ce que c'est un fluide? Est-ce que c'est une entité physique? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une production de la conscience? Est-ce que c'est une construction culturelle? Certaines locutions langagières suggèrent telle ou telle de ces hypothèses, mais d'autres locutions tout aussi familières viennent la démentir. Par exemple, dans l'exposé d'Alain, à tout moment quasiment, je me demandais, finalement, si on tient compte de ce qu'il nous a expliqué, est-ce que le temps est ce dans quoi s'inscrit le devenir, ou est-ce que le temps est la manifestation d'un devenir sous-jacent? Et ça pose la question, est-ce qu'on confond temps et devenir? Ou pas? Et sur ces questions, évidemment, quand on lit les philosophes, on voit qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça diverge. Mais d'une façon plus profonde, qui saurait dire, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements, ou si au contraire, le temps émane des événements? Et qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure? Ou pour déterminer si le temps ne se montre vraiment dans ce que Heidegger appelait la présentification des aiguilles qui avancent? Est-ce que le temps est aussi cette puissance qui vieillit les êtres, altère et use les choses, ronge les roches, etc.? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que le devenir n'a rien à voir avec le temps? Bon. Alors, en guise de réponse à ces questions, chacun d'entre nous se risque à dire son mot et se sent d'ailleurs pleinement autorisé à le faire. Mais en général, ça cacophone très vite. Un tel dit que le temps s'arrête quand plus rien ne change. Tel autre dit qu'il continue de passer quand plus rien ne se passe. Tel autre encore dit qu'il ne s'écoule que dans notre conscience. Tel autre enfin qu'il s'accélère. Est-ce que le temps peut s'accélérer? Sachant que pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse qui est une dérivée par rapport au temps. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le temps n'a pas de vertu œcuménique. En parler n'équivaut jamais à le dire et encore moins à le saisir. Au fond, à quoi le temps ressemble-t-il vraiment? Est-il comme notre langage le raconte? Est-il comme nous croyons le percevoir ou le vivre? Est-il comme le représentent les physiciens? Est-il comme le pensent les philosophes? Ou comme le décrivent les mathématiciens? Alors, a priori, c'est vers les philosophes qu'il faut se tourner, puisqu'ils sont les premiers à avoir traité la question. Et nombre d'entre eux, Aristote, Saint-Augustin que j'ai cité, Leibniz, Kant, Husserl, Bergson, Heidegger et beaucoup d'autres, ont mis sur pied des systèmes ingénieux, cohérents, qui permettent, en apparence, de le penser au plus près. Sans doute, mais mettre sur pied et mettre la main sur sont deux choses différentes. Construire une philosophie du temps, aussi rigoureuse qu'elle semble être, n'implique pas nécessairement qu'elle vise juste. En outre, et c'est une remarque faite par Francis Wolff que je vais citer, celui ou celle qui se tournerait exclusivement vers la philosophie en matière de temps se heurterait à deux difficultés. La première, habituelle, car inhérente à l'essence même de la philosophie, tient à ce que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Leurs discours font du temps tantôt le principe du changement, tantôt l'enveloppe invariable de toute chronologie, tantôt ils l'assimilent à la furtivité, à l'évanescence, tantôt à une arène statique emplie de ce qui a déjà eu lieu et en attente de ce qui viendra s'y produire. Tantôt ils le conçoivent comme un être purement physique, ou au contraire comme un produit de la conscience, ou de certaines cultures, voire comme une illusion. Il faudra donc faire des choix. Tous les philosophes ne peuvent pas avoir raison. Mais selon quels critères? L'élégance du système proposé? Sa séduction? Sa rigueur? Sa vraisemblance? Le prestige de son auteur? La seconde difficulté, corrélative de la première et dûment identifiée par Francis Wolff, tient à ce que la philosophie elle-même se trouve comme clivée par la question du temps, au sens où elle répartit en deux catégories presque étanches ces différentes doctrines. Pour les unes, le temps doit être pensé comme un simple ordre d'antériorité et de postériorité, sans qu'aucune référence ne soit faite ni à l'instant présent, ni à la conscience de quelque observateur, ni même à sa simple présence. La seule chose qui existe, selon ces doctrines, ce sont les relations temporelles entre événements. Le temps apparaît alors comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives, définitives, indépendantes de nous. Par exemple, si je dis Newton est né avant Einstein, je dis quelque chose dont la valeur de vérité ne dépend pas du moment où je la dis, à condition que je le dise après la naissance d'Einstein. Pour les autres doctrines, le temps est un passage, le passage d'un instant particulier, dit Francis Wolff, le transit du présent vers le passé et de l'avenir vers le présent. Cette dynamique ne pouvant être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet, le temps apparaît comme n'étant plus seulement un ordre chronologique, mais une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité. Vers laquelle de ces deux écoles de pensée la raison doit-elle pencher? Difficile de dire, et pour cause, et même pour deux causes. La première cause vient d'un constat difficile à contester, qui a été notamment théorisé par un philosophe que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Quentin Meillassoux. C'est que l'idée selon laquelle le temps n'existerait pas en tant que tel, en dehors du sujet, doit se confronter à des données factuelles, largement étayées, qui constituent pour elle une difficulté sérieuse. Au cours du XXe siècle, les scientifiques ont pu établir que l'univers a un âge au moins égal à 13,7 milliards d'années, que la Terre s'est formée il y a 4,45 millions d'années, que la vie y est apparue il y a 3,5 milliards d'années et que l'apparition de l'homme ne remonte, elle, qu'à 2 ou 3 petits millions d'années. Conclusion, l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Et donc, si le temps a besoin de la conscience d'un sujet pour passer, comment a-t-il pu passer avant que le premier sujet conscient apparaisse? C'est un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, dont certains pensent qu'il est tellement grave qu'il fusille toutes les théories corrélationnistes, c'est-à-dire les théories qui font dépendre le temps de la conscience. Alors récemment, Michel Bitbol a écrit un gros livre en réponse à celui de Quentin Meillassoux. Celui de Quentin Meillassoux s'appelait Après la finitude, celui de Michel Bitbol s'intitule Maintenant la finitude, dans lequel il essaie, à partir d'une position phénoménologique, de montrer que le paradoxe de l'ancestralité peut être, sinon résolu, du moins dépassé. Mais là, il y a quand même là une difficulté dont il faut avoir conscience, si j'ose dire. La seconde cause tient au fait que si, au contraire, on considère que le temps existe et passe indépendamment de nous, de façon autonome, alors il reste à identifier et à caractériser ce qu'on pourrait appeler le moteur du temps, c'est-à-dire le mécanisme imperceptible, non décrit par la physique traditionnelle, dans laquelle je range la relativité générale, la mécanique quantique classique, disons, mécanisme imperceptible qui fait que dès qu'un instant présent se présente, un autre instant présent apparaît, qui demande au précédent de bien vouloir aller se faire voir ailleurs et prend aussitôt sa place avant qu'un autre instant présent l'envoie lui-même se promener dans le passé, prenne sa place dans le présent et ainsi de suite. Quel est le moteur de ce renouvellement de l'instant présent qui est toujours présent sans être jamais le même? La physique ne décrit pas ce mécanisme. Les physiciens théoriciens cherchent ardemment la source de cette dynamique cachée, comme vient de nous l'expliquer Alain, notamment aux frontières de la physique quantique et de la théorie de la relativité générale. Mais il n'y a pas d'accord entre les physiciens sur cette source de renouvellement. Conclusion provisoire. Si on admet que le temps dépend du sujet, on a un problème, le paradoxe de l'ancestralité. Et si on admet que le temps ne dépend pas du sujet, on tombe sur la question, un autre problème, qui est la question du moteur du temps. Alors, ce sont des impasses, enfin des difficultés plutôt que des impasses, qui renvoient à une interrogation que soulevait Bergson dans « Durée et simultanéité », qui pose la question suivante. Comment du successif peut-il être engendré par du juxtaposé? Et en effet, quand vous tracez la ligne du temps, vous le faites comme vous faites dans l'espace, ou dans un espace. Et vous faites comme si les différents instants du temps coexistaient, alors que par définition du temps même, ils ne peuvent pas coexister. Par quel mécanisme des points placés sur une ligne droite, traversant l'espace, parviennent-ils à se temporaliser dynamiquement? Alors, il y a un physicien que Alain connaît bien, Lis Molin, a écrit un livre paru en 2010 intitulé « Rien ne va plus en physique », livre traduit par Alexis Greenbaum, dans lequel Lis Molin, qui travaille dans les mêmes zones qu'Alain Cohn, attire l'attention de ses collègues sur cette énigme, le moteur du temps, qu'il appréhende comme une difficulté conceptuelle majeure dont il dit qu'elle entrave l'avancement de la physique théorique. Je le cite. Quand on représente gravement, non pardon, pas gravement, graphiquement. Ouais, c'est parce que je vais parler de relativité générale, de gravité. Bon, quand on représente graphiquement un mouvement dans l'espace, le temps est représenté comme s'il n'était qu'une autre dimension spatiale. Le temps s'en trouve comme gelé. Il faudrait trouver une manière de dégeler le temps, de le représenter sans le transformer en espace. Ça ressemble un peu à du Bergson. Sans même nous en rendre compte, en représentant le temps par une ligne de points ressemblant à ceux qui se trouvent dans l'espace, nous déplaçons, nous transposons, voire nous contredisons sa nature propre. Dès l'instant, dit Bergson, où l'on introduit la moindre homogénéité à la durée, on introduit subrepticement l'espace. On colonise le temps par l'espace. De ce fait, dessiner d'un trait fléché l'axe du temps, ainsi que nous avons pris à l'école l'habitude de le faire sous la plupart de nos graphiques ou de nos courbes, devient un geste monstrueux. On fait alors spatialement coexister, c'est-à-dire exister ensemble dans un même présent, des instants successifs qui, par définition, ne peuvent pas être tous présents en même temps. C'est des citations, hein, donc le temps, enfin, le mot temps n'est pas décompté de mon...
Est-ce que c'est pas simplement
écrit? Alors attends. On représente les instants du temps de la même façon que s'ils étaient des points dans l'espace, ce qui déplace et contredit leur nature spécifique. Or ça avait déjà été dit par Kant. Dans la Critique de la raison pure, je le cite, Kant écrit « Nous représentons la suite du temps par une ligne qui se prolonge à l'infini et dont les diverses parties constituent une série qui n'a qu'une dimension, et nous concluons des propriétés de cette ligne à toutes les propriétés du temps, avec cette seule exception que les parties de la première sont simultanées, tandis que celles du second sont toujours successives. » Donc Kant, il avait bien vu le problème. Et cette habitude, qui est topologiquement absurde, masque un problème redoutable. Lorsqu'un instant est présent, où se trouvent les autres instants, par exemple ceux du futur? Est-ce qu'ils existent ailleurs, depuis la nuit des temps, si j'ose dire, attendant seulement de devenir présents l'espace d'un instant, au moment où le temps passera par eux? Ou bien, est-ce qu'ils gisent encore dans le néant, hors de toute réalité, pour ne devenir fugitivement réels qu'au moment où ils seront présents? C'est-à-dire que la question, c'est quel est le statut des points représentant les instants sur l'axe des temps? Est-ce qu'ils existent ensemble quelque part, et nous parcourons cette trajectoire présente de toute éternité, ou bien est-ce que le présent est ceinturé par du néant? Alors, c'est des questions évidemment très difficiles, qui sont tétanisantes, et donc on pourrait trouver une sorte de réconfort intellectuel à considérer que le temps finalement n'est qu'un mot, un mot qui n'existe d'ailleurs pas dans toutes les langues. François Julien, je pense, en parlera. Le temps est un simple vocable qui n'a pas un sens qui lui soit donné par une puissance indépendante de nous, de sorte qu'il pourrait y avoir une recherche quasi scientifique sur ce qu'il veut réellement dire. Le sens de ce mot ne serait en somme rien d'autre que les façons que nous avons de nous en servir. Il n'y aurait alors pas à se poser la question d'une vérité qu'il détiendrait ou masquerait, seulement à interroger ce que nos phrases tentent de signaler ou de signifier, vaille que vaille. Donc la question du temps sera un travail de linguiste. Bon. Le temps ne serait qu'une affaire de grande causerie, le sujet d'une vaste et incessante conversation à laquelle chacun d'entre nous participe de façon plus ou moins originale. Mais si l'on fait cette hypothèse, alors on prend conscience de la gravité d'un autre paradoxe, qui est celui que j'ai finalement évoqué en introduction. Sitôt isolé des mots qui l'entourent, le mot « temps » se transmute immanquablement en « mystère insondable », pour reprendre l'expression de Paul Valéry, qui dit d'ailleurs, en définitive, là je le cite, « Il apparaît que lorsque nous parlons du temps, nous ne nous comprenons nous-mêmes que grâce à la vitesse de notre passage sur les mots. » L'usage du mot « temps » a beau être des plus fréquents, il ne mène à nul éclaircissement de la réalité qu'il prétend dénommer. Dire le temps, le verbaliser, le baliser par le verbe, ce n'est jamais le désigner en tant que tel, même si on use de sinuosités raffinées. Le temps n'est manifestement pas une chose au sens usuel du terme, sa réalité est plus subtile que celle d'une simple brique. On ne peut pas le montrer du doigt, comme le faisait remarquer le même Wittgenstein. On ne peut pas non plus le cerner grâce à une batterie d'images parlantes, encore moins le tenir en main. Alors on pourrait suivre une proposition qui a été formulée par Vladimir Yankelevitch dans son livre « Quelque part dans l'inachevé ». Il dit ceci, « Il faudrait parler du temps comme Plotin parle de l'ineffable, recourant à une métaphore pour ensuite la détruire, puis en trouver une autre, plus légère, puis une autre encore, et finalement briser toutes les métaphores les unes contre les autres, et à partir de leur débris, suggérer un je ne sais quoi qui est l'horizon de l'ineffable. » Donc vous allez au café du coin, vous écoutez les conversations, vous notez les phrases prononcées ici ou là qui contiennent le mot « temps », vous extrayez un sens des métaphores qui sont dites là, vous le comparez au sens d'une autre phrase qui contient d'autres métaphores, ça fait des collisions. Vous faites des collisions langagières et vous voyez ce qui reste comme débris. Le problème, c'est que ce procédé collisionnel promet de ne pas être convergent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on compare les expressions dont nous servons pour dire le temps, dans l'espoir de saisir par recoupement et intersection ce qu'il pourrait être vraiment, on découvre une difficulté supplémentaire. Les images auxquelles nous l'associons lui attribuent un mode d'être qui plagie constamment ce qui s'y passe, comme s'il allait de soi que le temps s'identifie aux diverses temporalités qu'il accueille. Or, celles-ci sont si nombreuses, si hétérogènes, et si peu compatible qu'au bout du compte, le je ne sais quoi espéré se réduirait à pas grand-chose, sans doute à presque rien. Je préfère l'exercice, hein, en quatre phrases, l'affaire est réglée. Les significations du mot temps dans quatre phrases différentes sont contradictoires les unes avec les autres. Notre pensée du temps est également grandement tributaire du rapport que nos existences entretiennent avec lui. Les phénomènes temporels dont nous sommes les sujets ou les témoins nous font croire qu'ils le ressemblent ou les résument, ce qui nous conduit à lui attribuer autant de qualificatifs qu'il y aurait de temporalités différentes. Ainsi parlons-nous de temps prétendument vide, sous prétexte qu'il n'y se passe rien, ou que nous nous ennuyons, de temps accéléré, sous prétexte que le rythme de nos vies ne cesse d'augmenter, comprimant notre perception des durées, de temps cyclique, dès que des événements identiques se répètent, de temps psychologique, avec l'idée qu'il existerait une sorte de second temps autonome qui évoluerait sans se soucier de l'heure qu'indiquent les montres, ou aussi de temps biologique, géologique ou encore cosmologique, comme si le temps se confondait par essence même avec les divers déploiements dont il est le support et qui lui servent de décor ou d'habit. Mais la question qu'il faut poser, évidemment, c'est un temps ayant de telles allures d'arlequin, aurait-il la moindre consistance propre ? Serait-il encore pensable ? Serait-il digne d'intérêt philosophique ? Cela vaudrait-il la peine d'en discuter ? Non. Trop d'idées disparates, ainsi projetées sur le temps, tuent dans l'œuf l'idée même de temps. Enfin, dernière difficulté liée à la précédente, difficulté déjà notée par Saint-Augustin, le temps est victime d'abus de langage. En la matière, l'abondance de la mitraille verbale ne compense pas l'imprécision conceptuelle du tir. On n'est pas à Verdun. Dans ses confessions, Saint-Augustin écrit « Pour dire le temps, nous avons bien peu de locution juste, beaucoup d'inexactes. » Donc il aurait été intéressant d'inviter Saint-Augustin à ce colloque. La polysémie du mot temps s'est même tellement déployée au fil du temps que ses avatars occupent une place non négligeable dans les dictionnaires. Ouvrez le grand dictionnaire de philosophie. Le temps sert à désigner l'instant, le moment, la succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la durée, l'urgence, l'attente, la vitesse, l'usure, le vieillissement, l'argent, la mort. Ça fait trop pour un mot de cinq lettres. Et donc il faut procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Sinon, en fait, on croit se comprendre, en fait, sans rien dire. Parce que les désaccords éventuels ne peuvent pas apparaître dès lors que le langage n'est pas précis. Comment opérer ce nettoyage de la situation verbale, à partir de quelles assises ? Sur quoi pourrions-nous faire fond ? Alors les physiciens vont dire sur la physique. Pourquoi ? Parce que la physique est efficace. Elle est devenue efficace depuis qu'elle s'est mathématiquement saisie du temps en faisant un paramètre crucial de ses équations. Et donc elle devrait permettre de procéder à un premier décrassage sémantique. Donc pour faire ce décrassage, il faudrait prendre les équations de la physique, les équations fondamentales, et tenter d'imaginer ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler du temps. Mais les équations ne parlent pas, il faut les interpréter. Et on voit bien que la physique classique, disons la mécanique de Newton par exemple, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, la mécanique quantique, la relativité restreinte, la relativité générale, et là je parle de théories qui ont été éprouvées, je ne parle pas de celles qui sont à l'ébauche, comme la gravité quantique ou la théorie des cordes, sont des théories qui ne donnent pas au temps le même statut, dans la relation à l'espace, dans la relation à d'autres choses. Et donc, c'est un travail délicat, celui d'interpréter les équations de la physique, puisque, mais si on le fait, si on le fait, et si on prend au sérieux les équations de la physique, alors il y a des messages très profonds qui apparaissent. Par exemple, le fait qu'il ne faut pas confondre le temps et le devenir, même si le langage commun les confond. J'ai bien aimé, et après discussion avec Gilles Cohen-Tanoudji, deux temps qui commutent pas les uns avec les autres. En fait, pour les physiciens, il y a le cours du temps qui est irréversible. Le temps ne repasse jamais deux fois par le même instant, à cause du principe de causalité, qui crée une non-commutativité entre les instants successifs. Il y a un ordre. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du temps, contraint par la causalité. Et puis, il y a une autre irréversibilité, c'est celle du devenir des systèmes physiques. Des systèmes physiques. Un système physique, par exemple, ne peut pas retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé, à cause de l'irréversibilité de son évolution. Et c'est ça qu'on appelle la flèche du temps. Et dans la vie courante, nous parlons de ces deux irréversibilités comme si elles étaient identiques. Or, si vous prenez la physique et la faites parler, il apparaît qu'elles sont complètement différentes et même n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, une position qui, à mon avis, est soutenable, c'est de dire, c'est la physique qui a autorité pour dire comment bien dire le temps. Et c'est à partir d'elle qu'on doit procéder à la critique du langage dont parle Paul Valéry. Mais, il y a un mais, en signe d'ouverture, il y a une réserve. Il y a une réserve qui est que, qui est celui qui a introduit en physique la variable T dans les équations de la physique, de la mécanique en l'occurrence. En fait, le premier, c'est Galilée. Mais il ne le fait pas dans une équation, vraiment. Galilée, dans un manuscrit qu'on peut voir à Pise, à propos de la chute des corps, il écrit V, la vitesse de chute d'un corps qui tombe, est proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis 2 secondes va deux fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Etc. C'est proportionnel. Donc il écrit V, puis il y a T, il y a la variable T. Mais il ne l'insère pas dans un formalisme. C'est juste une loi. Celui qui va l'insérer dans un formalisme, c'est Newton, dans les Principia. Même si, en lisant les Principia, traduits par Madame Duchâtelet, on ne voit pas vraiment la variable T. Hein. Mais il y a l'idée que ce paramètre T qu'on voit dans les équations de la physique, c'est le temps. C'est le vrai temps, par opposition au temps vulgaire dont parle Newton, qui serait la durée. Le vrai temps, c'est T. Or, nous sommes tellement habitués, c'est un peu ce que disait Alain tout à l'heure, nous sommes tellement habitués à cette représentation qu'elle nous semble naturelle, au point que nous ne pensons plus à poser cette question simple. En vertu de quelle conception préalable du temps, et par quel cheminement intellectuel Newton a-t-il fait le choix d'une telle dénomination? Vous voyez, vous écrivez T dans une équation. Pour dire que c'est le temps, il faut le reconnaître comme étant le temps. Mais pour le reconnaître, il faut déjà le connaître. Autrement dit, il faut que le paramètre que vous reconnaissez comme étant le temps ressemble à l'idée que vous faites préalablement du temps. Or, j'ai lu les Principia, moi, dans tous les sens. Et Newton ne s'explique pas là-dessus. J'ai interrogé des historiens, Michel Blais, dont on a parlé tout à l'heure. Ils reconnaissent que Newton ne justifie pas son appellation. Et donc, nous ne savons pas dire à partir de quelles connaissances antérieures a-t-il pu, Newton, reconnaître le temps même sous les traits d'un être mathématique aussi rachitique. Et en toute logique, il aurait dû nommer le paramètre T d'une autre manière, puisque ce temps physique qu'il invente, parce que Galilée parle plutôt de durée, on peut dire que Newton invente le temps physique, il le mathématise, eh bien, ce temps de Newton n'a aucune des propriétés que nous attribuons d'ordinaire à l'idée de temps. Il est dématérialisé, il est abstrait, il n'a pas de vitesse d'écoulement, puisque lui en attribue une supposerait que le rythme du temps varierait par rapport au rythme du temps. Il n'a pas non plus les caractéristiques des phénomènes temporels qui se déroulent en son sein, alors même que nous parlons du temps comme s'il se confondait avec eux. Il est homogène, au sens où tous ces instants ont le même statut ontologique, ce qui implique que le temps de Newton ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Ça veut dire que le temps de Newton ne dépend pas de lui-même. Et on peut passer des heures à expliquer les conséquences qu'il y a au fait que quand on écrit T dans une équation, la variable T qu'on écrit ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, elle a la même stature mathématique, quel que soit l'instant qu'on considère. D'autre part, ce temps se montre en tout instant imperturbable, indifférent, impassible, au sens où rien, nul événement, nulle catastrophe, même cosmique, n'est susceptible de pouvoir affecter son cours. Et donc la question qu'on doit poser, s'agit-il là du vrai temps ou seulement d'une caricature mutilante? Le paramètre T ne désigne-t-il qu'un temps amaigri, amputé ou incomplet, voire tout à fait autre chose que le temps? On pourrait se demander que se passerait-il si Newton avait choisi d'appeler d'un autre nom la variable T, par exemple Trucmuche ou Tartempion. S'il l'avait fait, les physiciens feraient des colloques sur Trucmuche ou Tartempion. Et puis les biologistes, les philosophes, les psychanalystes continueraient à parler du temps tel qu'on le pense dans le langage ordinaire. Et donc, voilà, il y a un choix arbitraire, en partie arbitraire, parce que je pense qu'il avait ses raisons quand même, mais que je ne connais pas, il y a un choix arbitraire opéré par Newton qui a conditionné notre façon de décrire le temps et de le penser. Donc, évidemment, le temps newtonien, il a été malmené, même abandonné par la théorie de la relativité d'Einstein en 1905, donc c'est plus lui la référence. Mais c'est parce qu'il a nommé temps la variable T qu'on parle d'espace-temps en relativité, etc. Donc il y a une sorte de choix inaugural qui a déterminé la suite de l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que ces questions, en fait, ne sont pas arbitraires? Pourquoi est-ce que ce sont des questions qui ne sont pas byzantines? C'est parce qu'elles se posent aujourd'hui avec une gravité, à cause de la gravitation, encore plus forte qu'à l'époque. En effet, afin de décrire au sein d'un même formalisme la gravitation et les trois autres interactions fondamentales, électromagnétiques, nucléaires, les théoriciens imaginent toutes sortes d'hypothèses à propos de l'espace-temps, et leurs calculs, leurs hypothèses, bouleversent la structure de l'espace-temps et ses propriétés. On l'a dit, l'espace-temps pourrait avoir plus que quatre dimensions, il pourrait être déductible d'un inframonde plus fondamental que lui, il pourrait être discontinu, etc., etc. La question qui se pose aux physiciens est donc celle-ci. Quelles sont les propriétés caractéristiques du temps, celles qu'il faut lui accorder a priori, qui permettent ensuite de le reconnaître sous la forme de telle ou telle variable ou construction mathématique? Pour reconnaître le temps dans un jeu d'équations, ou bien y détecter son absence, ne faut-il pas déjà le connaître? Mais comment le connaître d'emblée, c'est-à-dire avant de disposer de la théorie physique qui permettrait d'identifier sa nature et ses propriétés? Il y a là une sorte de cercle vicieux. Par exemple, aujourd'hui, on entend des physiciens dire On peut se passer de l'idée de temps. Il s'appuie sur l'équation de Wheeler-DeWitt ou d'autres. Le temps n'existe pas. Le temps est une illusion. Et leur motif, c'est qu'on n'en trouve pas d'écho dans les équations les plus fondamentales, ou bien qu'il ne serait qu'une propriété émergente, c'est-à-dire déductible à partir d'une certaine échelle spatiale, d'un monde caché où il n'existerait pas. Après tout, pourquoi pas? Encore faut-il s'assurer que le temps, même si de nouvelles équations semblent l'avoir fait disparaître, ne s'est pas réfugié ailleurs, n'a pas pris un masque, ne s'est pas glissé sous d'autres oripeaux, tels ceux de variables dynamiques, chers à Carlo Rovelli, de causalité, de relations d'ordre entre événements. Bref, pour pouvoir certifier que le temps s'est bel et bien évaporé dans les nuées, il faut d'abord dire précisément quelle est cette chose qu'on appelle le temps et dont on assure qu'elle a pris la tangente de la réalité, et également expliquer d'où vient que notre esprit a pu créer semblable fiction et croire à pareil fantôme. Autrement dit, c'est pour ça que j'ai arrêté moi les colloques de physique sur le temps. C'est que pour dire que le temps n'existe pas, il faut préalablement savoir très précisément ce qu'est le temps. Sinon, il peut exister sous une autre forme que celle que nous avons pensée. Et donc, il faut donner ses propriétés a priori et voir si on en trouve un écho dans les formalismes physiques. Alors, si on ne tient pas compte de ces difficultés, c'est-à-dire si on admet que le temps des physiciens, c'est le bon temps, excuse-moi Vincent, si c'est un temps plus authentique que les autres, un temps plus en contact avec la réalité du monde, alors la physique permet de faire des découvertes philosophiques négatives, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty. C'est-à-dire la physique produit des résultats théoriques ou expérimentaux qui peuvent démontrer que certaines de nos façons de dire sont fausses. Et que les philosophes, s'ils prennent au sérieux la question du temps et prennent au sérieux les savoirs positifs que la science leur donne, devront peut-être, ici ou là, en tenir compte dans la façon de répondre philosophiquement à des questions philosophiques. Je vous rassure, ça n'est pas du tout le cas. Le temps a été le sujet donné à l'agrégation de philosophie, tout récemment. Et les livres qu'il fallait lire dans la liste proposée aux candidats, c'était Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Bergson, Merleau-Ponty, Heidegger. Newton, non. Boltzmann, non. Alain Cohn, non. Einstein, non. C'est pour ça que la situation est désespérée. C'est pour ça que la guerre est perdue. Mais ici, nous livrons une jolie bataille. On pourra dire que c'est le Dien Bien Phu de la pensée du temps. Alors, tous les autres. Alors, attendez. Même si on tenait compte de ce que la physique nous apprend, etc., est-ce que la messe serait dite pour autant? Non, pour plusieurs raisons, mais je vais en citer qu'une parce que je crois que je dois bientôt m'arrêter. Et cette question est la suivante. Ce problème est le suivant. La structuration mathématique du temps physique, donnant à chaque instant une nature équivalente à celle de tous les autres, est en fait, il reste à comprendre la singularité qu'a, pour chacun d'entre nous, l'instant présent particulier qu'il est en train de vivre. En physique, on dit tous les instants sont équivalents, l'instant présent, il est comme les autres. Au sein de la ligne du temps, le présent nous apparaît unique, radicalement différent de tous les autres instants, puisqu'il est celui où nous sommes présents. Ce qui détermine le présent du temps, c'est notre présence physique. Un instant n'est d'ailleurs qualifié de présent qu'en référence à nous. La seule chose qui le distingue des autres instants tient à ce que lui seul accueille notre présence. Pourtant, sur la ligne que représente le temps physique, sur la ligne qui représente le temps physique, l'instant présent est un instant parfaitement banal. Rien ne semble le distinguer des instants qui le précèdent, ni de ceux qui le suivent. si ce n'est que nous y sommes présents. De prime abord, la mathématisation du temps semble donc banaliser le présent en lui ôtant toute spécificité par rapport aux autres instants. Par définition, tout instant du temps est, a été ou sera présent. C'est-à-dire, un instant qui ne passerait pas par la case présent ne serait pas un instant. Une question se pose donc, par quoi l'instant présent, physiquement si quelconque, devient-il pour nous si singulier? Sa particularité vient-elle de nous ou lui est-elle intrinsèque? En d'autres termes, existe-t-il un présent du monde, même local, qui aurait le tranchant d'un pur éclat, ou bien ce que nous appelons le présent ne fait-il que marquer notre présence au monde? Alors, ça c'est une question dont Einstein a pris conscience tout à la fin de sa vie. En 1954, donc un an avant sa mort, il a reçu à Princeton la visite d'un de ses amis qui est Rudolf Carnap, qui était du Cercle de Vienne. On n'a pas trouvé trace de cette visite dans les écrits d'Einstein, mais Carnap, lui, l'a raconté dans son livre intitulé « Autobiographie intellectuelle ». Et en fait, la théorie d'Einstein stipule d'abord que ce qui nous est présent à un certain instant n'existe plus ou pas encore pour un observateur en déplacement par rapport à nous. Il devient donc impossible de définir un instant présent où se manifesteraient tous les phénomènes se produisant au même moment dans tout l'univers. Ensuite, la théorie d'Einstein peine à rendre compte de la présence du présent, ni n'explique ce que l'instant présent peut avoir de si spécial par rapport aux autres moments du temps. Et voilà ce que dit Carnap quand il relate cette visite. Un jour que je rendis visite à Einstein, il me dit, tous les mots sont importants, il me dit que le problème du présent le tracassait désormais sérieusement. Pardon ? The now. Ouais. The problem of now. Il m'expliqua que l'expérience du présent a pour l'homme une signification spéciale qui la différencie radicalement de celle du passé et du futur, mais que cette différence ne peut être mise en évidence au sein de la physique. Que cette expérience ne puisse être prise en charge par la science lui semblait aussi navrant qu'inévitable. Je lui fis remarquer que tout ce qui a objectivement lieu devrait pouvoir être décrit par la science. D'un côté, la succession temporelle des événements peut être décrite par la physique. De l'autre, l'expérience particulière que l'homme a du temps, y compris ses appréhensions différentes du passé, du présent et du futur, peut être décrite en principe et expliquée par la psychologie. Mais Einstein me répondit qu'il pensait que les descriptions scientifiques ne sont pas faites pour combler nos attentes d'êtres humains. Qu'il y a quelque chose d'essentiel à propos du présent qui demeure hors du domaine de la science. Fin de citation. Et donc, la question qui est posée, et je pense que Alain l'a lancée à sa façon tout à l'heure, c'est est-ce que la physique pourra à elle seule venir à bout de ce problème? Résoudra-t-elle dans le futur la question du présent posée par son passé? Si oui, cela signifie qu'il lui manque encore quelque chose, qu'elle est donc incomplète. Si vous pensez que c'est à la physique de rendre compte du présent, dès lors qu'elle ne le fait pas, elle est incomplète. Puisqu'elle n'est pas encore capable de décrire en termes exclusivement physiques l'intégralité de notre expérience du temps. Mais si le cours du temps est au contraire dépendant de notre subjectivité, en quelque façon, si la conscience que nous en avons joue vraiment un rôle dans sa dynamique, c'est qu'il s'agit d'une propriété qui dépasse le champ de la physique. Voilà. Et donc la question, à quelles autres disciplines devrait-on faire appel pour aller plus loin? Aux mathématiques? Aux sciences cognitives? Aux neurosciences, qui ne sont pas exactement les mêmes? À la philosophie? Ou à quelque chose d'autre encore? Ma réponse est « je n'en sais rien ». Je vous remercie pour votre attention.